au 99.1 88.9 CFNJ. C'est La Naudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Encore une belle journée aujourd'hui. Écoutez, ça, c'est une journée confortable. Hein? Il faisait pas trop chaud. On aura pour vous un menu intéressant. Mario Frégon, maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, qui nous parlera du dossier d'Hydro-Québec dans son coin. Catherine Gentilcor, députée de Terrebonne du Parti québécois, nous parlera économie. Marie-Hélène Saint-Pierre, elle est du service Amitié L'Assomption. On aura évidemment le bloc information à 16h30. 16h36, autour de ces heures-là, là, Sabrina Patton, coordonnatrice du Centre Amitié Autochtone de Lanaudière. La chronique de Pierre Paquette, on parlera du PQ et des libéraux. Est-ce que c'est des enfantillages ou c'est la nouvelle façon de faire la politique? On en parlera avec lui. Il y aura Sébastien Nadeau en fin d'émission, le maire de l'Assomption. Mesdames, messieurs, bonne émission. Ah ben oui, je vous le disais, il fait beau aujourd'hui, mais je veux vous parler, moi j'aime le sport, mais je suis un sportif de salon, vous savez, là, la patate de sofa qui écoute le hockey, là c'est moi. Bon, j'étais bien déçu de ne pas voir nos Canadiens en finale, mais ça s'est réglé, et si je vous en parle, c'est parce que la Coupe Stanley fera probablement un arrêt à Saint-Ignace-de-Loyola. Ben oui, l'attaquant Nicolas Deslauriers des Hurricanes, il est âgé de 36 ans, il habite là-bas, il a trouvé sa maison de rêve, dit-il, depuis 2018. Par contre, il a joué juste un match en première ronde des séries, ça pourrait l'empêcher de voir son nom inscrit sur la Coupe Stanley. Les Hurricanes vont demander une dérogation à la Ligue pour qu'il soit inscrit sur la Coupe. Il y a également un autre Québécois qui a gagné la Coupe Stanley avec les Hurricanes, c'est William Carrier de La Salle. Il est évidemment au sein des Hurricanes. Lui, il jouait pour les Las Vegas l'an dernier. Imaginez-vous, il a battu son ancienne équipe. Alors voilà!
Lanaudière PM, affaires municipales.
Eh bien, vous le savez, il y a une pétition qui circule à Saint-Gabriel-de-Brandon afin que les citoyens se prononcent contre le fameux projet d'Hydro-Québec, le Axe-Vallée-Saint-Laurent, qui veut doubler la ligne existante de 735 kV qui traverse déjà la municipalité. On ferait une autre ligne à côté. On a rencontré, j'ai rencontré ce matin, Mario Frégon, le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, sur ce dossier. Monsieur Frégon, dans la suite du dossier Hydro-Québec vous concernant pour la ligne 635 kV, vous lancez une opération citoyenne, mais avant d'en parler, j'aimerais ça que vous me disiez ce qui accroche avec Hydro-Québec. Il est où le problème?
Ben, le problème en soi est que on l'a appris à la toute dernière minute qu'ils mettaient ça chez nous. Moi, je suis quand même néophyte dans ces genres de projets-là. Depuis les rencontres qu'on a eues avec Hydro-Québec, j'ai fait énormément de recherches à savoir c'est quoi les tenants aboutissants de tout ça. Donc, j'ai été sortir le projet du BAP de Sainte-Julienne, où ce qu'ils sont en train de faire un autre poste de distribution ou de transformation, peu importe. Et puis, j'ai été chercher le rapport au complet. Puis, lors de nos discussions antérieures, avant qu'on sache que ça s'en allait chez nous, ils nous ont dit que ça s'en allait à Saint-Cuthbert, après ça, Saint-Norbert. Après ça, les citoyens ont fait des pressions, donc ça a cancellé Saint-Cuthbert. Ils ont mis sur la glace Saint-Norbert. J'ai été chercher, puis j'ai eu des discussions avec Hydro-Québec, puis il y en a un des responsables d'Hydro-Québec, Benoît, je me souviens plus son nom de famille, lui, il m'a simplement dit, Saint-Cuthbert, c'est annulé, mais on aurait pu quand même le mettre là. Ça, c'est ses paroles à lui. Après ça, concernant Saint-Norbert, il disait qu'il ne mettrait pas ça là, peut-être pas là, parce que 20 hectares de zone humide. Si on regarde le BAP de Sainte-Julienne, il y a 28,5 hectares de zones humides, hydriques et tout ça. Donc, tu sais, ils nous racontent n'importe quoi. Il manque de transparence. Puis, tu sais, on est des élus, on n'est pas spécialistes dans ces affaires-là.
Donc, la communication, là, elle est déficiente, à votre avis?
Très, très déficiente. C'est ça qui est vraiment plate. Puis, dernièrement, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, ma DG a parlé avec la responsable des communications dans ce temps-là, parce que là, elle n'est plus en poste. Et la responsable, ça, c'est suite à nos résolutions qu'on a fait. La responsable d'Hydro-Québec, Caroline Baudry, a simplement dit à ma DG, là, vous venez de mettre de la roche dans l'engrenage, mais elle dit, de toute façon, le poste s'en va chez vous, c'est définitif. Vous savez, quand ils disent qu'ils écoutent les citoyens, Saint-Cuthbert, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, c'est de la poudre aux yeux, ça, aux gens. Il manque de transparence, puis ils nous garochent à la dernière minute. Ils ont étudié ces projets-là pendant 2 ans. Puis là, nous autres, on a 3 à 4 mois pour décider, oui, le poste va venir chez nous. On ne sait même pas où ce qui va aller, le fameux poste en question.
Bon, justement, vous ne savez pas où il va aller, mais il reste que ce que vous avez peur, c'est que ça vienne interférer avec vos projets sur certains terrains que vous avez visés là, pour l'avenir.
Oui, effectivement, une municipalité, on regarde pas 1 an, 2 ans à l'avance, on regarde 30, 40, 50 ans à l'avance, puis on a des projets futurs. Un des endroits qu'ils voulaient mettre le poste, qu'ils nous ont parlé, si on regarde le grand rectangle, était, admettons, à l'ouest du grand rectangle, mais une des lignes qu'ils disaient, parce qu'ils disent pas aux gens qu'il va y avoir une ligne au nord et une ligne au sud, ces lignes-là vont venir interférer avec nos projets futurs. Moi, je serais pas ici là, dans ces projets-là futurs. Ça va être quelqu'un d'autre. Mais il y a des projets sur la table futurs.
Quelle serait pour vous une attitude acceptable par Hydro-Québec par rapport à votre municipalité?
C'est une bonne question. Raffolé au tout début, jour 1, qui nous en parle. Ils savaient qu'ils voulaient mettre ça chez nous. Ils savaient, mais ils ont envoyé de la poudre aux yeux aux citoyens, puis tout le monde était bien content. Je parle pas de nos citoyens, c'est les citoyens de l'ensemble du Québec, ceux-là. Là. Mais Hydro-Québec est fait de main. Il manque énormément de transparence. C'est bien, bien plate. Tu sais, ils travaillent pour le peuple, c'est Québécois, puis ils nous disent même pas les vérités.
La dernière fois qu'on s'est parlé, vous m'avez mentionné qu'il y aurait des actions citoyennes. Vous avez mis sur pied une pétition. Vous pensez que ça va être efficace, cette pétition?
Bien, si je fais une parenthèse, c'est pas nous qui a parti la pétition. C'est un citoyen de Saint-Cuthbert de mémoire. Mais oui, ça peut être efficace, mais à quel pourcentage? Je dirais peut-être à 5%. Parce qu'Hydro-Québec, quand ils décident de faire de quoi, ils font peu importe ce que les gens disent.
Est-ce que ça donne une indication par rapport à l'acceptation citoyenne, non?
Oui, effectivement. Non, c'est bon de faire ça. Puis là, il va y avoir un autobus de Nolizé pour aller aux futurs échanges avec Hydro-Québec en direct.
Et, ça passe quand, ça?
Je crois que c'est le 18 juin à Rawdon. Et puis, c'est nous, la municipalité, qui payons l'autobus pour les gens pour aller là-bas.
Donc, les gens vont aller manifester là, lors de cette réunion-là en face du local, c'est ça?
Ben oui, exactement. Ils vont aller manifester, puis ils vont aller démontrer c'est quoi leurs idées vis-à-vis de ça, puis les écouter tout simplement. C'est très important. On a personnellement des gens, s'ils mettent le poste à l'est, dans le grand rectangle, des citoyens directement touchés, complètement entourés, puis Hydro-Québec ne parle même pas des expropriés, ils vont être vraiment entourés de lignes d'Hydro-Québec.
Les prochaines étapes pour Saint-Gabriel-de-Brandon au niveau des actions que vous voulez faire, ça ressemble à quoi?
Bien là, présentement, je suis en train de convaincre la MRC de faire également une résolution. Lors de ma dernière séance du conseil, j'avais invité le représentant de l'UPA de la région, pas de la région, mais de Autré. Fait que donc, il a parlé à certains citoyens parce que j'en avais peut-être une quarantaine dans la salle. J'essaie de m'armer alentour de moi pour que tout le monde puisse m'aider pour voir comment est-ce qu'on procède dans tout ça.
Marie Frigon, merci. Alors voilà, dans un instant, tout juste de l'autre côté des publicités, on parle à Catherine Gentilcor, elle est députée péquiste de Terrebonne.
Profitez du beau temps pour changer votre toiture. Misez sur les toits idéal et permanent. Les spécialistes du bardeau métallique. Aucun entretien, écologique, c'est le choix intelligent. Communiquez avec nous dès maintenant sur toitureidéal@pluriel.com et profitez du financement disponible. toitureidéal@pluriel.com.
Entreprises et organismes à l'écoute, ne manquez pas votre chance de briller au Salon 50+ de la FADOC Région Lanaudière, présenté pour une 3e année consécutive par les Habitations Bordelot. Les 25 et 26 septembre, venez rencontrer des milliers de visiteurs aux Galeries Joliette. C'est l'occasion idéale de faire connaître vos produits et services à une clientèle active et engagée. Réservez votre kiosque dès maintenant. Contactez la FADOC ou visitez le fadoc.ca pour tous les détails. Soyez exposants au Salon 50+ et faites rayonner votre organisation.
C'est l'événement L'Avenir commence maintenant de Hyundai, en célébration à la Coupe du monde de soccer. Et l'action ne sera pas juste sur le terrain, mais aussi en concession. Louez un Tucson Preferred 2026 à traction intégrale pour $99 par semaine, avec $0 bacompte. Et question d'avenir, pas de souci à se faire avec sa fiabilité légendaire et sa garantie sur véhicule neuf de 5 ans. Donc pour votre prochain Tucson, visitez votre concessionnaire Hyundai dès aujourd'hui. Location 60 mois au taux de 4,49%. Les conditions s'appliquent, visitez Hyundai Canada pour les détails.
Tous les matins en semaine, commencez la journée avec...
Pendant que vous jardiniez, vous autres, en fin de semaine, moi, j'étais en cousinade. Mais je vais vous en parler un peu plus tard.
Non, on dirait un nom de sauce. J'ai fait une cousinade aux avocats.
C'est vrai que ça sonne comme une sauce, mais c'est vraiment une belle réunion.
Une compote
de cousins-cousines. Ah, c'est exactement bon. Ça.
Lanaudière AM, avec Diana France, Louis-Simon Ferland et François Morin. En semaine, dès 7h25, à CFNJ.
C'est la saison du menu d'été à $3 chez Harvey's. Hot dog cuit sur le grill, burger junior, boisson glacée ou lait frappé, chacun à $3 tout l'été. Harvey's, taxe en su.
Profitez de l'Internet fibre sur le nouveau réseau de fibre d'Autry branché. Avec Flitel, vous obtenez un service rapide, fiable et local à partir de $37.95 par mois. Que ce soit pour le télétravail, le divertissement ou les études, notre fibre est prête à livrer la performance que vous méritez. Et surtout, vous encouragez une entreprise d'ici au développement le plus rapide dans la région. Visitez flitel.ca dès maintenant et branchez-vous à mieux. Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Marcel-de-Richelieu, Épicerie Marie, à Saint-David-Diamasca, Marché du Village, à Saint-Germain-de-Grand-Âme, Marché du Village, Dépanneur 122, BMR Express Saint-Guillaume, Aguisca Coopérative, à Pierreville, Dépanneur Gamelin, Dépanne Express, à Yamaska, Marché Blanchette et Vincent. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
CFNJ au 99.1, 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Michel Arnois. Lanaudière PM, politique provinciale.
Et bien, dans le cadre de son dernier dîner de la saison, la Chambre de commerce du Grand Joliette recevait à sa tribune la députée de Terrebonne, la péquiste Catherine Gentilcor, qui était là pour échanger sur sa vision économique, celle de son parti. François Morin a échangé avec Mme Gentilcor.
Bon, Catherine Gentilcor, on a un message à livrer aux gens d'affaires aujourd'hui parce que l'économie est en mouvance, il y a beaucoup d'incertitudes et un éventuel gouvernement du Parti québécois a des choses à dire justement aux gens d'affaires.
Absolument, je pense que c'est important de remettre en contexte ce qu'on a vécu dans les 8 dernières années sous la CAQ. Ils sont passés d'un surplus de 7 milliards pour arriver à un déficit de quasiment 9 milliards. Donc ça, c'est un état de fait. Peu importe le gouvernement qui prendra la barre en octobre prochain, devra composer avec cette réalité-là financière qui est extrêmement précaire, beaucoup plus qu'il y a 8 ans. Ensuite de ça, j'ai passé l'année et demie entière de mon mandat à dénoncer la dilapidation des fonds publics par la CAQ, à dénoncer le bar ouvert des subventions aux grandes entreprises, à dénoncer le fait que nos PME n'en ont pas pour leur creuse-dents et qu'on n'aide pas nos PME à prospérer, à s'automatiser, à devenir efficaces. Donc, c'est un plan en ce sens-là que je vais proposer aujourd'hui. Il n'y a pas de grande nouvelle, c'est-à-dire que les grandes lignes ont déjà été mises au grand jour par notre chef, entre autres, à la Chambre de commerce de Montréal métropolitain il y a quelques semaines de ça. Mais pour nous, c'est très évident, ça doit passer par abolir le Fonds de développement économique où on a accumulé 6,5 milliards de pertes dans les dernières années sous la CAQ, ça n'a pas de bon sens. Sabrer généreusement dans le bar ouvert de subventions aux grandes entreprises, puis proposer un allègement fiscal puis un allègement réglementaire historique pour l'ensemble des PME du Québec pour créer un contexte de concurrence qui est favorable puis permettre à chacune d'entre elles, celles qui auront les meilleurs plans d'affaires, de tirer leur épingle du jeu, de pouvoir croître. Donc, c'est vraiment un changement de modèle économique qu'on propose au Parti québécois.
Mme Fréchette a elle-même avoué ce matin qu'il y avait eu des erreurs au niveau de la gestion de la filière batterie. Entre autres pour deux dossiers, mais qu'elle garde quand même le cap au niveau de la filière batterie.
Écoutez, moi, je peux vous dire, j'étais Lorsque la vérificatrice générale a déposé son rapport catastrophique, incendiaire la semaine dernière, j'étais là. J'étais dans la pièce où elle l'a présenté avec quelques collègues des oppositions et je peux vous dire qu'on entendait une mouche voler. L'ambiance était lourde parce que toutes les craintes qu'on avait, toutes les suppositions qu'on avait faites et tout ce qu'on présageait et qu'on soulevait et qu'on dénonçait depuis des années se révélait être vrai sous nos yeux en temps réel. Et ça, c'est jamais une bonne nouvelle. Là. C'est jamais une bonne nouvelle de constater que le gouvernement, que la CAQ a joué au casino avec notre argent. Là. Il y a personne qui peut se réjouir de ça. Donc, évidemment qu'on a posé des questions très, très sérieuses à la première ministre, qui parce que c'est son propre bilan, hein, c'est elle qui était ministre de l'Économie juste avant. Donc, pourquoi ces décisions-là? Ça fait depuis le début de mon mandat que je demande à ce qu'on rende public les études de McKinsey qui ont été faites sur la filière batterie et qui auraient guidé la décision de M. Fitzgibbon à l'époque d'investir dans la filière batterie. On n'a jamais voulu me les montrer. La demande d'accès à l'information m'a été refusée. C'est d'une opacité. C'est d'un manque de transparence. Donc, que Mme Fréchette dise qu'il y a peut-être eu des erreurs, c'est la moindre des choses, parce que c'est pour la vérificatrice générale, c'est on ne peut plus clair. À un moment donné, on ne peut plus accepter ça, là, de jouer au casino avec notre argent. Il faut changer de cap complètement, puis il faut mettre fin à ça.
Et quand on parle de changer de cap, il y a un mot que les gens d'affaires ne veulent pas entendre, c'est austérité.
Ouais, non, mais nous, en fait, c'est le contraire. C'est qu'on veut ramener l'argent, justement, vers les PME. En ce moment, l'ensemble de nos entreprises au Québec payent des taxes et impôts. Puis il y a seulement 8% d'entre elles qui sont triées sur le volet par le politique, par le gouvernement, pour recevoir une aide financière. Ça tient pas la route. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que l'ensemble de nos PME puisse obtenir une aide financière. Il faut qu'on allège dramatiquement, drastiquement le fardeau réglementaire, parce qu'en ce moment, il y a des ressources qui sont payées à temps plein juste pour s'occuper de la paperasse, ce qui est complètement contre-productif. On s'entend, nos PME ont besoin de travailler sur leur productivité puis ont besoin de mettre leurs ressources là où ça compte, développer des nouveaux marchés, travailler sur la productivité, automatiser leurs effectifs. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant.
Quand on parle d'allègement réglementaire, ça ne date pas d'hier. Il y avait un ministre, un député de Trois-Rivières, M. Girard, à l'époque, qui s'occupait de ce dossier-là. Ça semble pas avoir beaucoup avancé.
Écoutez, il n'y a rien de magique, mais une chose est certaine, la CAQ avait promis de réduire la taille de l'État. Elle n'a qu'explosé sous la CAQ. Donc, plus de fonctionnaires, plus de cadres, plus de reddition de comptes, plus de paperasse. À un moment donné, au moins, si on n'augmente pas, faut garder le statu quo. Là. Donc, nous, on a un plan, on est en train de mettre un plan en place pour vraiment, véritablement, couper dans cette paperasse-là. À un moment donné, c'est des choix qui peuvent être difficiles à faire. Ça va prendre du courage. C'est pas facile, des fois, d'avoir le vent de face et de prendre des décisions qui peuvent être impopulaires dans certains milieux, mais le Parti québécois n'aura pas le choix de prendre ces décisions-là, advenant que si d'aventure, les Québécois nous choisissaient pour être le futur gouvernement. Puis je pense que quiconque prendra le pouvoir au Québec en octobre prochain aura cette responsabilité-là qui lui incombe parce qu'on les entreprises, puis l'ensemble du milieu communautaire, puis l'ensemble du Québec ne peut plus continuer comme ça.
C'est quand même un début de pré-campagne électorale particulier.
Écoutez, ça donne le ton pour la campagne, je pourrais dire. Ensuite de ça, quand on regarde ça avec quelques pas de recul, ce sont simplement des questions qui ont été posées qui sont légitimes. C'est-à-dire que l'UPAC est dans le dossier, il y a des enquêtes qui sont sérieuses sur des allégations très, très sérieuses au Parti libéral du Québec. Puis en ce moment, M. Milliard ne nous donne aucun éclairage sur la tenue de ces travaux-là. On n'a aucune idée de comment ça se passe. Les Québécoises et Québécois doivent aller aux urnes bientôt, puis pour ça, ils doivent savoir pour qui ils votent, puis ils doivent savoir dans quel contexte ils le font. Donc, tout simplement, de soulever ça de la part de notre chef, c'était juste l'idée de dire, n'oublions pas que ça existe, puis les Québécois ont le droit d'avoir des réponses. Puis c'est ce qui a été confirmé par mon chef hier.
En terminant, est-ce que le parti sera prêt, parce qu'on attend encore des candidatures dans plusieurs circonscriptions dans la Nadia?
Oui, évidemment, on aura des candidatures partout. On en a déjà annoncé plusieurs qui sont extrêmement solides. Je suis très heureuse que ma collègue Véronique Venn revienne d'ailleurs à Joliette. Il y a mon collègue Stéphane Enfield aussi qui est de retour dans Masson, juste à côté de chez moi. Puis on va continuer à annoncer de très fortes candidatures. L'équipe qu'on est en train de mettre en place, elle est incroyable, elle est solide, elle est crédible, elle est rigoureuse. Moi, je suis vraiment fière de la gang qu'on est en train de rassembler pour les prochaines élections. Puis on continue dans cet esprit-là.
Alors voilà, c'était Catherine Gentilcor, députée péquiste de Terrebonne.
Lanaudière PM, communautaire.
Eh bien, une nouvelle initiative majeure pour Service Amitié à l'Assomption. L'organisme communautaire autonome va mobiliser les bénévoles afin de réaliser une série de balados auprès des aînés. On veut mettre en lumière leurs idées et leurs expériences. C'est excellent, ça. Et c'est ce qu'explique, voilà, ça va venir, la directrice Marie-Hélène Saint-Pierre à notre collègue Régent Turgeon.
Madame Saint-Pierre, les services à missiles, l'Assomption, là, d'entrée de jeu, c'est quoi au juste?
C'est un organisme communautaire autonome. Dans le fond, notre mission, c'est briser l'isolement chez les personnes âgées et maximiser le maintien à domicile. On veut qu'ils sortent de chez eux pour pouvoir vivre chez eux le plus longtemps possible.
Là, vous vous apprêtez à rencontrer des bénévoles pour leur faire part d'un projet de balado, La Voix n'a pas d'âge, avec des aînés. Que veut-on faire au juste, là? On va aller chercher des témoignages, des idées, des histoires.
Dans le fond, c'est exactement ça. On veut leur donner le micro. On veut qu'ils prennent place à la parole, qu'ils viennent parler de ce qu'ils vivent, que eux aient des idées. Dans le fond, on veut que les questions viennent d'eux. On veut que ça soit réfléchi avec eux, pour eux, les sujets, bien sûr. Mais vraiment, tout va être monté. Ça va être fait avec eux.
Comment veut-on procéder, justement? Il faut aller au-devant de ces gens-là.
Oui, exactement. Demain, le 16 juin, au Vieux-Palais, à 10h, on a vraiment invité tout le monde à venir pour réfléchir. Comment? Qui veut s'impliquer? Comment on va faire? Qui veut apprendre à manipuler aussi? Parce qu'il y a beaucoup là de côté, il y a un côté technique. Les micros, l'enregistrement, ben on a besoin de bénévoles, on a besoin de personnes âgées. Oui. Et à travers tout ce beau projet-là, il va avoir aussi tout un côté intergénérationnel. Alors, les jeunes vont être là, sont invités à poser les questions ou à se faire poser des questions par des personnes aînées. Puis, tout ça dans l'objectif de donner la parole aux aînés.
Les services amitiés de l'Assomption, on apprend aujourd'hui que c'est un organisme communautaire autonome, mais ça prend des budgets pour faire un projet comme ça. Les subventions sont là cette année?
Oui, ben c'est ça qui est vraiment le fun. C'était une idée que j'avais en tête depuis quelques années. Et j'ai une super collègue qui a embarqué dans mon idée. Et ensemble, on a fait une demande de subvention. C'est le programme Nouveau Horizon pour aînés, alors du fédéral. Puis, on l'a rempli. On a tout bien expliqué ce qu'on voulait faire, le matériel qu'on avait besoin d'acheter, tout ça. Et on a eu la bonne nouvelle là, qu'on a réussi et on a eu l'argent.
Là, les gens veulent savoir quand est-ce qu'on va voir le fruit de ces efforts-là. C'est quand même une initiative qui mérite d'être partagée, là.
Ah oui, ça c'est sûr. Vous allez en entendre parler. Le but, ben, quand on a une subvention comme celle-là, c'est on a un an pour la faire, pour faire le projet. Nous, on a comme objectif de faire 8 balados. Mais par contre, ça s'arrêtera pas là. Subvention ou pas, on veut continuer. On veut que justement les gens qui vont avoir appris à manipuler tout le matériel pour l'enregistrement, les gens qui vont avoir eu le plaisir de le faire. On veut que ça continue année après année. C'est ça. Alors, ce n'est qu'un début.
C'est un projet qui a toute sa pertinence là, quand on pense que le 15 juin, là, c'est la journée mondiale de...
Aujourd'hui, le 15 juin, on est la journée mondiale contre la lutte contre la maltraitance chez les aînés. Alors, c'est très important aujourd'hui de mettre du mauve et puis de respecter nos aînés.
Est-ce que c'est un des plus beaux défis que vous avez eu à relever au fil des ans comme DG là de Service Amitié l'Assomption?
J'ai eu beaucoup de défis, mais je pense que le communautaire s'est rempli de défis au quotidien. Mais c'est sûr que le balado est vraiment, une belle surprise et une belle récompense. Puis on va faire quelque chose de vraiment beau pour nos aînés, mais surtout, ça va être fait par eux. Alors, j'ai hâte de les voir en action.
Madame Saint-Pierre, je vous remercie.
Bien, merci à vous de nous donner parole.
On s'en va vers le bloc information avec Marie-Pierre Poulin. Et par la suite, on aura pour vous plein d'autres informations. Entre autres, à ne pas manquer, Pierre Paquette, autour de 16h45, qui viendra nous parler de Paul Saint-Pierre-Plamondon.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ben oui, il faut faire la circulation quand même. 40 Est, on s'en va gaiement jusqu'à C'est rouge, hein, jusqu'à l'avenue Broadway, là, vous allez être nombreux. Par la suite, ça devient vert à la hauteur du parc nature de la Pointe-aux-Prairies. C'est rouge à l'entrée de Charles de Gaulle et sur le pont, là, c'est au jaune. Alors, vous circulez, mais un peu lentement. Pour le gardeur, un peu comme ce qui est à Charles de Gaulle, vous êtes, ça bloque à l'entrée et ça bloque comme ça jusqu'à la hauteur de l'île Bourdon. Par la suite, vous prenez de la vitesse, ça redevient au vert. 25 Nord, très difficile à partir du pont Payan et ce jusqu'à l'île Saint-Jean et également du côté de la 640 Est, à partir de la montée du Mai, là, vous allez être nombreux là, jusqu'à la jonction 4640, comme d'habitude, vous le savez. Alors voilà.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 principal à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
À BDC, on ouvre les portes de la défense aux petites et grandes entreprises. Parce qu'une botte fabriquée ici peut donner le rythme à toute une mission. Avec notre acier, on renforce notre présence en mer. Et avec l'intelligence artificielle, nos données passent à l'action. Parce que la meilleure défense commence avec nos produits canadiens. Pour du financement et des conseils, bdc.ca/défense.
Depuis plus de 30 ans, Fenêtrage Saint-Ambroise aide les gens d'ici à construire et rénover avec confiance. Des portes et fenêtres durables, performantes, sécuritaires et pensées pour notre climat comme la gamme de fenêtres Fenplast. Justement, passez découvrir la fenêtre Premia Fenplast dans notre toute nouvelle salle de montre. Et profitez-en pour faire le tour de notre centre de liquidation qui vous offre des produits neufs en parfait état avec des rabais pouvant atteindre jusqu'à 70%. Fenêtrage Saint-Ambroise, confort, qualité et tranquillité d'esprit. 50 route 343 à Saint-Ambroise-de-Kildare ou fenêtrage.ca.
Pour la fête nationale, CFNJ célèbre les 50 ans d'un événement marquant de l'histoire culturelle du Québec. Le spectacle Une fois 5.
C'était au mois de juin 1976.
Avec Claude Léveillé, Yvon Deschamps, Jean-Pierre Ferland, Gilles Vigneault et Robert Charlebois.
You're a frog, I'm a frog, kiss me.
Aimons-nous quand même.
C'est moi.
50 ans plus tard, revivez ce concert mythique, Une fois 5, le mardi 23 juin, dès 22h à CFNJ.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fascite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette, au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèses plantaires, injections de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
En manchette aujourd'hui, l'observatrice de la MRC de Joliette dépose son rapport. Le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon demeure contre le projet d'Hydro-Québec et manifestation au rond-point du jour sud. Bon lundi, Marie-Pierre Poulin.
Bon lundi, Michel.
Tu avais passé un week-end occupé?
Ouais, quand même, toi.
Ah oui, oui, oui. Moi, on n'arrête pas. Quand on a une maison puis on a un jardin,
ouais.
Y a toujours de quoi à faire. Hein?
Okay,
le nettoyage du cabanon, le jardin, le potager.
Alors, c'est pour ça que je suis chanceuse d'être encore chez mes parents.
Absolument.
J'ai pas à faire ça.
Vous devriez pas vous en aller. Alors, on parle de la MRC Joliette, on parle du rapport de l'observatrice qui est déposé.
Le rapport de l'observatrice qui vise à vérifier les allégations de la municipalité de Saint-Thomas sur la gouvernance de la MRC de Joliette est déposé à la Commission municipale du Québec. Rappelons que les élus de Saint-Thomas ont affirmé par voie de résolution que la gouvernance de la MRC est centralisatrice et manque de transparence. Le rapport d'observation est actuellement en analyse et dans une correspondance que nous a fait parvenir la CMQ, elle indique qu'il est prématuré de se prononcer sur les suites à donner dans ce dossier.
On se rend compte que le temps passe vite, Marie-Pierre. Mm-hmm. Déjà 10 ans pour le projet d'aide à mourir.
Oui, le Québec a été précurseur en matière d'aide médicale à mourir et il a influencé la loi canadienne qui a été adoptée par la Chambre des communes il y a 10 ans. Avec le recul, l'ex-députée Véronique Yvon, qui a porté ce dossier lorsqu'elle siégeait à l'Assemblée nationale, estime que le succès du Québec est surtout dû que les parlementaires se sont donné du temps et à la large consultation auprès des citoyens.
Ce qui explique que les gens ne craignent pas ou ont démystifié le recours à l'aide médicale à mourir, c'est beaucoup parce qu'on l'a fait avec beaucoup, beaucoup de dialogue social, une commission spéciale, donc beaucoup d'échanges avec la population, de transparence. Et c'est une approche qui a été complètement différente par le fédéral, parce que le fédéral s'est fait forcer la main par une décision des tribunaux.
Hydro à Saint-Gabriel-de-Brandon, eh bien, la décision est déjà prise.
Oui. Le projet Axe-Vallée du Saint-Laurent d'Hydro-Québec veut développer encore plus les lignes de transport d'électricité dans l'Anaudière dans le but de répondre aux besoins grandissants d'électricité du Québec. Après avoir mis en veilleuse les lignes de transport et postes de distribution proposés à Saint-Cuthbert et Saint-Norbert, Hydro-Québec projette maintenant de doubler la ligne de transport de Saint-Gabriel-de-Brandon et de créer 2 nouvelles lignes, une au nord et l'autre au sud de la municipalité. Et c'est le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, Mario Frigon, qui reproche à Hydro-Québec son manque de transparence dans le dossier. Il estime que les consultations d'Hydro-Québec auprès de la municipalité et des citoyens sont bidons, puisque selon lui, Hydro-Québec a déjà pris ses décisions.
Dernièrement, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, ma DG a parlé avec la responsable des communications dans ce temps-là, parce que là, elle n'est plus en poste. Et la responsable, ça c'est suite à nos résolutions qu'on a faites, la responsable d'Hydro-Québec, Caroline Baudry, a simplement dit à ma DG, là vous venez de mettre de la roche dans l'engrenage, mais elle a dit de toute façon, le poste s'en va chez vous, c'est définitif.
Violence conjugale, maintenant, des solutions pour améliorer les interventions.
C'est le service de police de Terrebonne qui a mis en place des solutions pour contrer la violence conjugale. L'initiative a été créée par Martine Milton et Joëlle Laparé, qui sont agentes de liaison en violence conjugale. Au cours des 5 dernières années, ces dernières ont développé le réflexe de reprendre contact avec les victimes qu'elles ont rencontrées pour assurer un suivi. Elles se sont finalement concentrées uniquement sur les cas de violence conjugale. Les deux femmes ont aussi mis en place un premier comité d'échange regroupant des policiers et des intervenants du milieu judiciaire et communautaire. Un deuxième comité composé d'experts du domaine a élaboré un formulaire de déclaration spécifique au cas de violence conjugale. Ce document est composé des éléments qui permettent de faire facilement le suivi d'un dossier ainsi que des conseils pour assurer un lien de confiance avec les victimes. L'objectif de ces deux comités est de mettre en commun les solutions développées à travers le Québec.
Et en terminant, manifestation des résidents du rond-point du jour sud.
Des résidents du rond-point du jour sud de l'Assomption tiendront une manifestation citoyenne demain matin afin de dénoncer le passage intensif de camions lourds dans leur secteur et de réclamer des mesures immédiates pour assurer la sécurité des usagers et préserver leur qualité de vie. Cette mobilisation survient quelques jours après le dépôt officiel d'une pétition, d'une demande citoyenne et d'un mémoire au conseil municipal de l'Assomption. Les citoyens affirment avoir reçu peu de réponses concrètes malgré les préoccupations exprimées concernant la sécurité routière, le bruit, les vibrations, la détérioration de la chaussée et les impacts sur la circulation agricole. Le rond-point du jour sud est une route rurale située en zone agricole où circulent quotidiennement des familles, des piétons, des cyclistes et des véhicules agricoles. Selon les résidents, le volume actuel de camionnage lourd est incompatible avec la vocation du secteur et crée une situation préoccupante pour les usagers. Voilà, ça complète vos nouvelles. Pour d'autres informations, rendez-vous à cfng.net.
Lanaudière PM, Lanaudière PM. Michel Arnois. CFNG. Lanaudière PM. Première Nation.
Eh bien, le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, en partenariat avec la ville de Joliette, tient la 5e édition de Waskapitan. C'est célébrons les peuples autochtones, un grand rassemblement festif, culturel et rassembleur. Ça va se passer dimanche, 21 juin, au Parc Louis Kerb. François Morin a rencontré Sabrina Payton du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière.
Sabrina Payton, donc on va célébrer au cours des prochains jours le 5e anniversaire de Waskapitan. C'est quand même un bel événement pour la communauté puis pour la communauté joliétaine.
C'est fantastique, on est vraiment contents et excités, là.
5 ans, c'est quand même quelque chose, ça veut dire que de part et d'autre, on se veut.
Ben, on se veut, on apprend à se connaître. Et tu sais, le nom Ouasgabidan veut dire rapprochons-nous. Donc, on est en plein dans la volonté d'apprendre à connaître l'autre de façon, tu sais, ludique, de façon familiale, de façon festive. Puis, tu sais, le show grossit, l'événement grossit d'année en année. On pensait pas la première année quand on a fait notre petit show que ça prendrait autant d'ampleur 5 ans plus tard.
Avant de parler de la programmation comme telle, il y a quand même, comme on dit à bon québécois, tout est dans tout. Ça sera également le 25e anniversaire. En fait, c'est le 25e anniversaire du Centre des Métiers autochtones de la Naudière. Puis on est en plein mois des langues autochtones, des communautés autochtones. Ça va célébrer en grand. Là.
Ça célèbre en grand, puis c'est tellement une belle façon de festoyer le fait que ça fait 25 ans que le CAL existe. On est solide, on est rendu une entité qui répond à de nombreux besoins, on grandit, on développe énormément de services. Et je pense que Ouasgabidan, c'est comme l'anniversaire aussi du CAL, l'anniversaire des peuples autochtones et l'anniversaire du vivre ensemble. Donc, on est vraiment contents, là.
Est-ce que la barre est de plus en plus haute?
La barre est de plus en plus haute. Ça grossit. Tu sais, de plus en plus de gens connaissent l'événement, reviennent d'année en année. Au niveau de la portée médiatique aussi, ça grossit. Donc, évidemment, on est imputable. On veut s'assurer que les gens aient énormément de plaisir et que tout roule vraiment comme il faut, là.
Tantôt, je parlais de la communauté joliétaine, mais dans le fond, c'est à peu près tout le Québec qui se rassemble à, j'imagine, là, Joliette, là, tout le monde. Ça vient de partout pour rester à l'événement.
Mais en fait, tu sais, dans toutes les régions où il y a des communautés autochtones, il y a une célébration pour la Journée nationale des peuples autochtones, mais on est rendu ici à Joliette avec un des plus gros événements au Québec. L'année passée, on a attiré plus que 4000 personnes. Cette année, on espère être capable de dépasser ce cap-là. Et, tu sais, il y a énormément de partenaires aussi qui s'impliquent, qui sont pas des partenaires autochtones, qui sont des partenaires autant culturels que des gens de la région, que tout le monde veut prendre part à ça, s'impliquer, montrer qu'ils sont là aussi, montrer qu'ils sont des alliés. Donc, ça a un grand impact.
Si on se parle un peu de la programmation, qu'est-ce qui nous attend?
Une programmation variée à 15h30 au Musée d'art de Joliette. Le Festival de la Naudière produit un concert de violon classique. Donc, on a un jeune de la relève qui s'appelle Édouard Thibault Échaquan, qui est un jeune de Manoine, qui est en train de faire son cours au Conservatoire de musique de Montréal, qui est violoniste. Et ensuite, on a Tara Louise Montour, qui est une femme qui fait ses marques partout en Amérique du Nord aussi. Donc, il va avoir... ils vont jouer du Mahler, du Beethoven et des choses comme ça. Et ensuite, à 17h, le site ouvre au Parc Louis Kerb. Le show commence à 18h. Donc, on va avoir des tambours traditionnels avec des danses traditionnelles. Ensuite, on a un Wabanaki qui fait de la musique avec une voix qui ressemble beaucoup à celle de Johnny Cash. C'est une belle voix grave, ténébreuse. Ensuite, on a Laura Nikwe, qui est Atikamekw de Wemotashi, qui sort un nouvel album, elle, à l'automne. Donc, elle va venir nous présenter son nouveau matériel. Et on termine la soirée avec Q052, qui est un Mi'kmaq, que lui, il est plus dans le hip-hop, rock, électro. Donc, tu sais, une belle variété musicale en termes de programmation et vraiment pour toucher tous les goûts. Tu sais, on n'est pas juste dans le folklore, mettons, comme... plusieurs personnes.
On est dans le contemporain.
On est dans le contemporain. Exactement. Puis, tu sais, on touche tous les styles, tous les nations aussi. Puis, on espère pouvoir toucher toutes les générations aussi de participants qui viennent.
Merci.
C'était Sabrina Payton. C'était Sabrina Payton du Centre d'amitié autochtone. Elle est coordonnatrice là-bas. Tout juste de l'autre côté des pubs, on parle à Pierre Paquette. On parle politique provinciale. C'est toujours intéressant.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05.
Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas, dépanneur des Lacs. À Saint-Angèle-de-Prémont, épicerie Jacques Lessard. À Saint-Ursule, dépanneur Marie-Lou. À Saint-Alexis-des-Monts, dépanneur Beaussoir. À Saint-Paulin, boucherie 4 saisons. Et à Louisville, tabagie Grand-Père. Dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Besoin d'un service informatique fiable à la maison? Chez Fleet Info, nous offrons réparation, optimisation et une vaste sélection d'ordinateurs et d'accessoires, incluant nos modèles de PC gaming sur mesure. Service rapide et conseils d'experts en magasin. Fleet Info à Joliette et Berthierville.
Amateurs de pêche, le Festival de la truite mouchetée vous invite à venir taquiner le poisson et à vous amuser au cœur du village de Saint-Alexis-des-Monts. Du 20 au 28 juin, gratuit pour tous et sans permis pour les résidents du Québec. Bingo, feux d'artifice, concours de bûcherons, pêche en famille, jeux gonflables et de nombreux spectacles à ne pas manquer, dont Caïn, la tournée d'adieu le 17 juin, Rock Pilots le 20 juin, Still the One, Shania Twain Québec le 25 juin et un gala mini-star pour les enfants de tous âges. Suivez-nous sur Facebook ou sur Festival de la truite mouchetée. Saint-Alexis-des-Monts, le paradis du plein air et de la truite mouchetée.
Vous déménagez? Équipez votre nouveau chez vous avec les aubaines choc et les services résidentiels de Best Buy Express. Visitez un magasin Best Buy Express dès aujourd'hui.
Depuis plus de 30 ans, Fenêtrage Saint-Ambroise aide les gens d'ici à construire et rénover avec confiance. Des portes et fenêtres durables, performantes, sécuritaires et pensées pour notre climat comme la gamme de fenêtres Fenplast. Justement, passez découvrir la fenêtre Premia Fenplast dans notre toute nouvelle salle de montre. Et profitez-en pour faire le tour de notre centre de liquidation qui vous offre des produits neufs en parfait état avec des rabais pouvant atteindre jusqu'à 70%. Fenêtrage Saint-Ambroise, confort, qualité et tranquillité d'esprit. 150 route 343 à Saint-Ambroise de Kildare ou fenêtrage.ca.
CFNJ, 40 ans dans Lanaudière.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Pierre Paquette, bon lundi, comment vas-tu?
Bien, très bien. On a une belle journée aujourd'hui, c'était pas prévu comme ça, bravo.
Ben absolument. Il y en a qui ont commencé à scraper le chignon dès vendredi dernier. On sait qu'il y avait les bilans de la session. Et puis, Paul Saint-Pierre Plamondon a lancé les hostilités en associant des mots qui n'ont pas fait l'affaire du côté des libéraux. Bref, on va écouter, si vous voulez bien, parce qu'il a associé les libéraux au crime organisé. Ça n'a pas été prisé par M. Milliard. Avant de parler ensemble, Pierre, on va écouter un extrait.
D'accord. Cette fois-ci, ça ne passe pas. En associant le Parti libéral du Québec au crime organisé, Paul Saint-Pierre Plamondon a franchi une ligne qu'aucun chef politique sérieux ne devrait avoir franchie. Ses propos sont irresponsables, diffamatoires et indignes d'une personne qui aspire à gouverner le Québec. Il y a toujours bien des limites.
Et suite à ça, Paul Saint-Pierre Plamondon a répliqué.
J'ai pas fait une affirmation sur le Parti libéral du Québec, j'ai fait une affirmation sur mon indignation devant le fait que on sait, grâce aux journalistes, qu'il y a eu du financement illicite dans la course à la chefferie 2025, mais on n'a toujours pas de réponse. Et c'est dans ce contexte-là de réclamer des réponses sur d'où vient le financement que j'ai soulevé des questions.
Alors Pierre, dis-moi, est-ce que c'est la nouvelle façon de faire de la politique ou c'est de l'enfantillage? Qu'est-ce que c'est?
Ben, je pense que c'est sûr, c'est limite, là, je reconnais, mais quand même, Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon était très prudent et a tout mis sous forme de questions. À mon avis, la mise en demeure du Parti libéral du Québec mènera nulle part, sauf d'être obligé de faire la preuve que tout ça était pas connu de la direction, là, parce que le financement illégal, c'est un fait, là, même l'UPAC enquête là-dessus. Alors, c'était limite, mais en même temps, je pense que ça fait partie de la game, comme on dit.
Est-ce que c'est un piège qui a été tendu par Paul Saint-Pierre Plamondon à M. Milliard?
Ben peut-être, dans le sens où si on va vraiment en procès concernant cette mise en demeure, ben le Parti libéral devra répondre à des questions auxquelles il n'a pas répondu, effectivement. Mais c'est pas la seule mise en demeure que le Parti libéral du Québec a fait. Il en a fait une contre Cogeco, que vous connaissez bien, Québécois, et Mme Risky. Alors, donc...
Et à toutes les fois, il n'y a pas eu de suite, là.
Il n'y a pas eu de suite, puis je crois qu'il n'y en aura pas. De toute façon, c'est tellement proche de l'élection. Je pense pas que personne va vouloir mélanger des questions juridiques avec des questions politiques. Mais je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon a été un peu dur, mais en même temps, il était à la limite de ce qui est permis, parce qu'il n'a jamais affirmé en aucun cas que le Parti libéral était associé au crime organisé. Il a dit qu'il fallait peut-être avoir des réponses à certaines questions pour être sûr que c'était pas le cas. Et moi, je le trouve là-dessus habile, parce que je pense, par exemple, à sa position concernant le TGV. À première vue, tout le monde est pour le TGV, c'est le transport de l'avenir, mais en même temps, à quel coût? Alors, évidemment, il a fait j'aurais une formule en parlant du nation building. Ça, je suis pas sûr que tout le monde est embarqué là-dedans. Mais par contre, tout le monde a bien compris que c'est un projet qui va coûter extrêmement cher. Est-ce qu'on a les moyens de se payer ça au moment où nos hôpitaux, nos écoles sont en décrépitude?
Je sais pas si vous avez vu l'article du Journal de Montréal qui parle d'Alto. Il y a 74 cadres et seulement 142 employés. Ça veut dire qu'il y a un patron pour deux employés. C'est quand même particulier, là.
Ben oui, ben là-dessus, on peut dire que M. Poilievre aussi, il l'a mentionné. Je pense qu'il y a des salaires de l'ordre de 2,3 millions de dollars pour tous les vice-présidents. Et il n'y a pas un rail, un pouce de rail qui a été construit.
Mais c'est une société privée, ça. C'est pas.
Exactement.
C'est pas, oui, c'est ça.
Mais c'est pour ça, je me dis, c'est un peu comme pour le TGV. Paul Saint-Pierre Plamondon veut accoler l'étiquette au Parti libéral, d'un parti qui a des mœurs autant au plan financier assez léger.
Il y a une historique,
Oui, exactement. Oui, ça date de Jean Charest. Il y a eu la commission Charbonneau. Alors, bon, moi, je trouve c'est de bonne guerre. Et puis, ça ira pas plus loin que ce qui s'est passé cette semaine, là, par contre. Et je sais que, aussi bien du côté du Parti libéral du Québec que du Parti québécois, la semaine prochaine, il va y avoir des éléments de contenu qui vont être sortis. Le livre bleu lundi pour le Parti québécois et la position de la langue sur la langue française du Parti libéral dans les jours qui vont suivre. Alors,
et monsieur, on va voir ce contenu. Et monsieur Milliard a voulu peut-être calmer le jeu là lors de sa dernière apparition publique. On va l'écouter.
Je vais pas commenter les futurs actes. Je vais laisser le délai courir pour l'instant. Et encore une fois, je le dis pour une troisième fois, il n'est pas trop tard de simplement donner leur juste sur un point précis. Je lui demande pas d'avaliser l'ensemble des politiques du Parti libéral du Québec. Je lui demande de respecter les militants, les députés et les candidats.
En terminant, il nous reste environ une minute, Pierre. Est-ce que ça va profiter à Christine Fréchette, cette guéguerre-là entre les deux?
Je ne sais pas si Pierre Plamondon a ouvert les hostilités vis-à-vis les libéraux. C'est qu'il pense que la lutte va être à deux entre les libéraux et le Parti québécois. Mme Fréchette a fait une remontée intéressante là, pour la CAQ, mais le calcul que fait le Parti québécois, c'est sûrement que ce ne sera pas l'ennemi principal, ça va être le Parti libéral, et dans ce sens-là, ils ont décidé de cibler le Parti libéral dans les premières salves, si on veut, de leurs attaques.
Pierre Paquette, immense merci, on se retrouve mercredi.
Et je crois que ça va être la dernière mercredi.
Oui, absolument. C'est la dernière semaine avant les vacances d'été.
OK, bon, ben parfait. Alors, j'ai bien hâte de te reparler.
On se voit mercredi. Bye-bye.
Bye.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Et le parti, écoutez, la saga des parcomètres virtuels au centre-ville de l'Assomption se poursuit. Ben, ça se poursuivra pas longtemps parce que le maire Sébastien Nadeau n'a pas l'intention de reculer, puisque, rappelez-vous, la semaine dernière, la ville avait accordé un contrat à une firme spécialisée pour mettre en place la technologie nécessaire. Notre collègue Jean Turgeon a rencontré le maire Sébastien Nadeau.
Monsieur Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, ben, votre politique de stationnement suit son cours, les parcomètres payants au centre-ville, ça s'en vient. Et votre administration vient d'octroyer un contrat important, un contrat de 2 ans. Là, c'est vraiment parti.
Oui, effectivement. En fait, la mise en œuvre des stationnements payants, de la politique, ça va être autour du 15 août. Ça va être coordonné avec la rentrée étudiante, ce qui est vraiment un flot de trafic qui est plus élevé. Donc, on va être prêt pour cette période-là. Effectivement, on a donné un contrat avec, on va travailler avec la firme Hotspot qui offre l'application Copilote. C'est un contrat de 116 000 taxes incluses sur 2 ans. Puis, il faut savoir que ce contrat-là nous permet d'avoir accès à toute la technologie, puis qu'il offre aucun frais supplémentaire pour les usagers.
Au moment où on se parle, c'est, il y a quand même déjà assez d'argent investi dans cette politique-là. C'est pas fini, là. Il y aura des pancartes à changer, tout ça. Il y a des frais afférents à l'installation de tout ça.
Oui, effectivement. Tous les frais qu'on fait dans cette implantation-là des stationnements payants, c'est dans la, ça devrait se financer dans la première année. Donc, ensuite de ça, ça va nous donner certaines libertés pour, encore une fois, augmenter l'offre de stationnement parce que c'est un des enjeux qu'on a. Mieux financer, mieux subventionner le transport en commun. Déjà, cette année, on va accorder 25 % de rabais pour les gens qui veulent favoriser les autobus. On veut subventionner aussi les principes d'autopartage. Donc, puis l'objectif est vraiment de réduire le nombre de véhicules. Donc, c'est de réduire la circulation sur nos voies. Et c'est aussi de réduire le nombre de stationnements requis pour accommoder nos visiteurs et notre clientèle.
Les grandes lignes de cette politique-là, M. Nadeau, là, on parle beaucoup de gratuité pour les résidents, mais il y a plus une tarification, j'ai bien compris, en fonction des heures et des endroits où on va pouvoir se stationner.
Oui, en fait, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a deux grandes zones, si vous voulez. Il y a la zone verte, qui sont nos petites rues de tout le méandre, puis on a la zone orange, qui est la boulevard L'Ange Gardien, donc la rue où tous nos commerces et notre offre institutionnelle et culturelle se situent. Donc, la zone verte va être tarifée seulement de 8h à 17h, du lundi au vendredi, du 15 août au 15 mai. Donc, tout l'été, c'est gratuit. Tous les soirs, c'est gratuit. Tous les week-ends, c'est gratuit. Alors, pour nos visiteurs, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas penser que le stationnement est payant. C'est un stationnement gratuit dans toutes les zones vertes. Par contre, il y a la zone orange, qui est notre boulevard L'Ange Gardien, qui est la rue principale commerciale, où on veut favoriser une rotation des gens qui stationnent afin d'aider nos commerçants. Alors là, il y a un stationnement payant de 1 $ de jour, gratuit les fins de semaine, et 2 $ de l'heure de soir, de 17h à 21h. Donc, les gens qui viennent nous visiter de l'extérieur, sachez que vous serez toujours bien accueillis, vous aurez toujours l'option de la gratuité, et que vous aurez aussi l'option d'une plus grande proximité en acceptant une petite tarification.
Ça mérite d'être là. Dans l'intervalle, M. Nadeau, il y a plus de 100 personnes là, qui, mardi soir, se sont présentées à la réunion du conseil. Il semble y avoir beaucoup de questionnements encore sur le mode opératoire de tout ça. Est-ce que vous sentez encore une certaine grogne ou une certaine résistance populaire par rapport à ces parcs-mètres-là?
Bien, question de donner la bonne information. C'est vrai qu'il y avait une centaine de personnes, mais il y avait peut-être 50 à 60 personnes qui étaient associées au défi du stationnement. Les autres, c'était pour d'autres dossiers qu'on a pu entendre lors de la période de questions. Donc, ensuite de ça, c'est-à-dire, on savait à la base que ça ne peut pas être un dossier populaire. On implante une tarification. Ça ne peut pas être populaire. Mais par contre, nous, comme administration municipale, on se doit d'être responsable. On a des problèmes depuis plusieurs années. Nos citoyens se plaignent du surplus de circulation. Nous se plaignent du manque de stationnement, de l'usage de nos rues pour le stationnement des étudiants. Donc, à un moment donné, on ne peut plus faire la sourde oreille. Il fallait régler le problème. Et puis ce qui est la beauté de la chose, c'est que c'est un projet qui a beaucoup évolué. C'est-à-dire que entre son lancement et sa finalité, c'est un peu le but de déposer un projet, c'est ensuite de générer de la discussion. On a eu des belles discussions avec tous les commerçants. La majorité d'entre eux ont collaboré et aidé à la résolution des défis qu'on avait, parce que tout le monde veut que ça marche. Ensuite de ça, on avait des rencontres avec les étudiants qui vont se répéter aussi au trimestre avec les étudiants du cégep, justement pour dire, ben, c'est quoi l'impact? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut peaufiner? Et moi, je pense que dans un an, ce projet-là va être vivant. Puis dans un an, on sera pas mal proche d'une réalité où tout le monde aura réussi à trouver son bonheur. Mais ça, on va s'assurer qu'on se rend tous à cette destination-là.
On a senti mardi soir dernier, M. Nadeau, une demande, on pourrait quasiment dire persistante, d'un moratoire pour une consultation encore plus formel dans le dossier des parcs-mètres. Est-ce qu'il est trop tard pour ça?
Le projet est adopté. Donc, on va de l'avant. Puis maintenant, c'est à nous de travailler ensemble pour le faire évoluer.
M. Nadeau, un gros merci.
Merci à vous.
Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu, là, on parle de parcs-mètres virtuels. C'est des parcs-mètres qui, j'imagine, fonctionnent avec les téléphones intelligents et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez vu le monsieur des Maritimes qui est arrivé face à un stationnement où il y avait un code QR. Puis il a pris une photo du code QR. Il n'a jamais été capable de payer. Parce que, bon, il n'est pas habitué aux technologies. Il y en a qui ont de la misère avec ça, puis je peux le comprendre. Puis il y en a qui veulent pas laisser leur numéro de carte de crédit sur une application. Ils sont pas à l'aise avec ça. Et c'est souvent des gens âgés. Il y a eu une contravention d'une quarantaine de dollars, ce monsieur-là, quand même. C'est pas rien. Alors, voilà, je pense que ça complète pour aujourd'hui. J'aimerais remercier les gens qui ont participé à l'émission. Sébastien Nadeau, vous venez d'entendre, maire de l'Assomption. Il y avait Pierre Paquette, notre collaborateur habituel, qu'on trouvera mercredi. Sabrina Payton, coordonnatrice au Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. Il y a eu les nouvelles avec notre collègue Marie-Pierre Morin. Marie-Hélène Saint-Pierre, service d'amitié l'Assomption, qui est venue à nos micros. Catherine Gentil-Cor, députée péquiste de Terrebonne. Et Mario Frégon, le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, dans le dossier Hydro-Québec. Un beau menu aujourd'hui, on a eu du plaisir, puis on vous informe, c'est ce qui est important. Moi, je vous retrouve demain à 16h. Merci à Régent Turgeon, François Morin, Marie-Pierre Poulin. On se donne rendez-vous demain à 16h et dans un instant, c'est le 5 à 7 Trad, l'émission phare avec Nicolas Bellemare.